Bonsoir à toutes et à tous, très chers amis de Radio Merguez & Co. Quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau barbecue vélo. Débrief du tour de Paris-Roubaix, excusez-moi, là c'est l'émotion comme d'habitude de vous retrouver pour ce magnifique barbecue vélo qui est aussi disponible en podcast sur Spotify, Google Podcast et sur notre site Radio Merguez & Co. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. On vous salue comme d'habitude et d'ailleurs je tenais à vous remercier pour la 300e émission de Radio Merguez & Co. qui a fait un tabac sur YouTube. On est largement au-dessus de notre stat. Alors je vais vous ressortir ça dans quelques instants, mais on est quand même sur 70 grosses écoutes. C'est quand même pas mal par rapport à d'habitude sur YouTube. Donc ça fait plaisir de savoir que vous nous écoutez. On a eu quelques commentaires aussi qui font toujours plaisir. N'hésitez pas à en mettre quelques-uns sur le chat. Ça fait toujours plaisir. On est également en direct sur Twitch. Bonsoir à tous nos followers. Et donc aujourd'hui, alors je vais vous montrer le programme qui va s'afficher juste en bas de votre écran. On va commencer par l'impression de nos chroniqueurs. Et puis ensuite, on va débriefer Paris-Roubaix et les résultats de la semaine. Et ensuite, on va se diriger vers les Ardennaises. Et puis, on fera aussi un petit point extra sportif entre la chicane sur Paris-Roubaix et puis les grosses chutes de cette semaine. On va en parler tout ça autour du barbecue et avec moi. On a eu malheureusement un petit forfait, mais heureusement, il y a toujours l'inimitable Rulio Moreno. Bonsoir à toi, mon Rulio.
Salut à toutes et à tous. Salut, mon Elio. Je ne sais pas si tu m'entends bien.
Si, on t'entend très bien. Moi, je trouve qu'on t'entend très bien. Ça me va. J'espère que sur YouTube, vous nous entendez bien. Comment ça va, mon Rulio ?
Ben, écoute, impressionné. Impressionné, ça va bien déjà. Merci. J'espère que toi aussi. Impressionné. Ouais, c'est juste stratosphérique. C'est juste extraordinaire ce qu'on vient de vivre encore une fois. On est une nouvelle fois pas surpris. On a l'impression de se répéter encore, mais c'est juste. C'est juste incroyable. C'est juste phénoménal. Et on a l'impression que c'est facile. Mais ça l'est à aucun point, pour aucun point de vue, c'est juste extraordinaire ce que nous a fait vivre encore Mathieu Van Der Poel. Et voilà, tout simplement, on est impressionné et c'est quand même un monument, quoi. Voilà, c'est pas, y a pas de petite course, bien évidemment.
Ouais, et puis il est phénoménal comme toi, mon Rulio.
Ouais, bah non, il est plus phénoménal que moi. En tout cas, sur un vélo, un tout petit peu plus.
Modestement, c'est toujours un plaisir de te retrouver parmi nous, mon cher compère, hein, qui est toujours présent et qui est de bel et bien de retour parmi nous sur Barbecue Vélo. Avant de commencer, on a une petite pensée pour Antoine oui. Moyon, qui n'a pas pu être présent parmi nous ce soir vu que en fait il a des devoirs à faire, et on comprend, donc on lui souhaite bon courage. Ça m'est déjà arrivé cette situation, oui. Donc on te souhaite bon courage, mon cher Antoine.
Oui, parce que les études, c'est important. Préciser que les dimanches, ils sont pas exclusivement consacrés au classique et au grand monument, hein.
C'est aussi
la veille de lundi, quoi.
Écoutez, pour tout vous avouer, hein, d'ailleurs, si les personnes que je connais qui m'écoutent de temps en temps sont là, et bah, ils se reconnaîtront, hein. J'ai joué au ping-pong dans mon jardin tout en regardant Paris-Roubaix.
Ah, c'est sympa, ça.
C'est sympa, oui. Alors ouais, c'est dommage qu'ils ne sont pas passionnés de vélo comme moi, mais oui, c'était quand même assez sympathique.
Ouais, t'as mis quoi? T'as mis l'enceinte sur la...
Ah non, pas du tout, j'ai juste pris mon téléphone avec moi.
Bon,
allez, traite de blabla, on va passer au sérieux, au vif du sujet. On va commencer par tes impressions, alors, sur la course et puis sur la semaine vélo aussi, avant de rentrer plus dans le détail et dans le débrief de ce Paris-Roubaix. Ouais. Vas-y, mon Rulio, je te laisse ouvrir le bal.
Bah, le bal, il a été joué par Mathieu Van Der Poel. C'est c'est assez, comme je disais il y a quelques instants, c'est assez bluffant, c'est assez sensationnel ce qu'il réalise. Et là, il part à 60 km. Alors, je vois écrit depuis tout à l'heure 60 km. Moi, il me semblait, j'ai pas revérifié, je vais être honnête, mais est-ce qu'il part pas un petit peu moins de 60 km quand même?
Alors, il est parti dans le secteur d'Orchy.
Ouais. Ouais, dans le secteur d'Orchy. Alors, je sais pas. Ouais, je crois que c'est
un regarder petit peu. Je vais regarder ça.
Non, c'est pour être tatillon, hein, parce que on va arrondir à 60 km et c'est bluffant. Et c'est bluffant parce qu'en plus, il aurait pu se permettre d'attendre. Bon, on en a l'habitude, hein, lors des derniers monuments, les gros poissons, comme on les appelle, que sont Pogacar, que sont Mathieu Van Der Poel, que sont Remco Evenepoel, ont l'habitude ces derniers temps de profiter de leur force, de profiter de leur force de résistance pour pouvoir se permettre de partir très loin dans les monuments. Mais là, voilà, vu ce qu'il a fait au Tour des Flandres la semaine dernière, on aurait pu dire, voilà, il peut partir d'un petit peu moins loin, il peut faire les différences dans les secteurs pavés un petit peu plus proches de l'arrivée, il prend un petit peu moins de risques. Bah non, il est joueur, et pourtant il la voulait, hein, il voulait faire ce doublé, ce dixième doublé de l'histoire. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, il avait évidemment à cœur de le réaliser, mais voilà, encore une fois, son panache à payer, puis surtout son talent, quoi. C'est assez bluffant. La facilité dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas une facilité, on croit que c'est facile, mais c'est absolument incroyable, surtout sur des pavés, hein, résister sur des secteurs pavés, c'était je crois la première fois depuis une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait autant de kilomètres de pavés sur un Paris-Roubaix.
Oui, exactement. Oui. Il y avait même un secteur inédit qui a été introduit sur ce Paris-Roubaix.
Ouais, on était à 55 kilomètres de pavés et voilà, il fallait le faire, il fallait résister et MVPD n'a fait qu'augmenter son avance et il finit à 3 minutes tout pile d'avance sur son coéquipier, sur Jesper Philipsen. Qui au passage d'ailleurs, l'équipe Alpecin-Dekenik réalise un triplé assez formidable sur les monuments: Milan-San Remo, Tour des Flandres, puis Paris-Roubaix. Est-ce que tu m'entends toujours, mon cher Elio? Ah non. Ah.
Si si, c'est tout bon. Si, c'est tout bon.
Petit bug. C'est la chicane. Si, on va dire.
Non, c'est tout bon. Je t'entends très bien.
D'accord. Tu avais peut-être juste coupé ton micro.
Exactement, c'est ça.
D'accord. On va dire que c'est la chicane. Ça nous a perturbés. Ouais, j'étais en train de parler du triplé incroyable d'Alpecin-Dekenik, Milan-San Remo sur les monuments, Milan-San Remo Tour des Flandres, et puis ce dimanche Paris-Roubaix. Qu'est-ce que je disais que oui, bah oui, c'est stratosphérique. Et j'ai perdu mon idée. Ouais, 3 minutes d'avance. Le record d'avance sur un Paris-Roubaix entre le premier et le deuxième, il est encore au crédit d'Eddy Merckx.
Oui,
je vais vérifier juste tout de suite. J'ai plus la stat en tête. Voilà, 321 secondes, 5 minutes et 21 secondes, c'était l'avance de Eddy Merckx sur son coéquipier, Roger de Vlaminck.
Roger de Vlaminck, un
triple. De Vlaminck, absolument. Tu vois,
de Vlaminck,
je me disais bien qu'il y avait une.
Triple vainqueur de Paris-Roubaix également, Roger de Vlaminck.
C'était en 70. Et puis donc c'était 5 minutes et 21 secondes. Yoann Museo en 2002, le lion de Gistel, s'était imposé avec 3 minutes 4 d'avance sur Stephen Wesseman. Et puis là, on est à 3 minutes. Donc je ne sais pas si c'est le podium du record pour Mathieu Van Der Poel. En tout cas, c'est...
Rectification, quadruple vainqueur. Roger de Vlaminck à égalité avec Tom Bonnen qui détient le record.
Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit de Vlaminck, j'étais sur un ouais. Mais effectivement le pauvre Roger, s'il nous entend, de Vlaminck bien évidemment.
Alors merci pour ton impression. Alors je me permets juste avant de continuer bien de sûr. Saluer notre ami OJCRM qui est présent, donc je te salue, qui nous dit bonsoir à tous. Monstrueux Mathieu Van Der Poel. Il a la pancarte sur les deux courses et il gagne les deux. On parle souvent de Pogacar et de Van Aert, mais le meilleur, c'est Mathieu Van Der Poel. Alors, Pogacar et Van Der Poel, c'est pas le même type, mais moi, je serais plus d'accord sur Van Aert. On en rediscutera de Pogacar un peu plus tard. Et il ajoute au JCRM qu'il gagne avec panache, Mathieu Van Der Poel, et ça, c'est vrai. Et
ouais,
puis,
ouais, voilà, je trouve que OJ CRM est, a raison avec certitude, c'est que effectivement il a la pancarte, quoi. C'est impressionnant. À 300 mètres, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut que je lise la réflexion d'OJ.
Le temps que OJ CRM utilise son commentaire, je vais me permettre aussi de saluer les 11 viewers sur Twitter qui nous regardent. Bonsoir à vous, merci de nous écouter. C'est avec plaisir que nous vous accueillons.
Un grand coucou à tout le monde. Merci beaucoup.
Vous salue également les viewers de Twitter. Merci d'être avec nous.
Absolument. Puis on vous invite à rejoindre le live, hein, bien évidemment. L'aventure barbecue vélo, c'est ouvert. Mais superbe. Merci beaucoup, OJ CRM. Merci beaucoup pour cette stat. D'accord. Ok. Donc 60 km de raid solitaire. Ça serait quasiment le, enfin quasiment 300 mètres, c'est quand même quelque chose, mais ça serait quasiment le record sur l'histoire de Paris Roubaix, j'imagine.
Alors moi je vais parler de mes impressions.
Oui, tes impressions
sur cette course et puis sur cette belle semaine vélo. Alors trois points, donc déjà c'est la victoire de Mathieu Van Der Poel, hein, bien sûr. Bon, tu l'as bien épilogué, mais et comme l'a dit notre cher OJCRM, victoire avec panache, ce qu'on aime sur le vélo, à 60 km de l'arrivée, là où on ne l'attendait pas forcément, sur le secteur d'Orchy. Et c'est assez impressionnant, en fait, ce qu'il nous a fait. Donc franchement, on en reparlera un tout petit peu plus tard de Mathieu Van Der Poel. Je ne vais pas faire mon développement tout de suite. Deuxième chose qui est importante de noter, c'est la belle semaine de nos Français sur l'Itsula Base Country, sur le Tour du Pays Basque, avec deux victoires en compteur. C'est quand même assez impressionnant. Et puis la troisième, c'est plus un point extra sportif sur la sécurité des coureurs, qui, voilà, ça m'a énormément touché. On a quand même au tapis trois gros noms qui ont été mis au tapis: Roglic, Evenepoel, Vingegaard. Et puis encore d'autres, hein, Steph Kras, il me semble, il y a Juan Ayuso aussi, il me semble, qui a été mis au tapis par la chute. Luis Menties, par exemple, qui est chuté, qui a continué, mais qui a aussi chuté sur ce tour du Pays Basque. Et donc, on en reparlera un tout petit peu plus tard de ça aussi, de cet aspect sécurité des coureurs. Mais je pense que le monde du vélo, là, il va falloir réagir. Et d'ailleurs, on a une pensée aussi pour Michael Gollert, qui est mort sur cette même course de Paris-Roubaix. Et on pense fort à lui et à sa famille, on n'oublie pas. Voilà à peu près pour mes impressions. Et puis maintenant, on va passer au débrief de la course. Et vous n'allez pas vous croire, mais sauf que la semaine dernière, j'avais écrit cette même phrase en dessous, qui apparaît juste en dessous de vous sur le live: Van Der Poel impérial. Et donc là, j'ai voulu réécrire la phrase et il m'a proposé tout de suite: oui, Van Der Poel impérial.
C'est bien l'IA, hein, c'est bien
l'IA. Ah, c'est même pas l'IA, hein, c'est juste qu'il a, enregistré mon texte et du coup, ça n'a pas changé.
je trouve que c'est une belle. C'est une belle manière de souligner, ça symbolise bien
exactement
ce que fait Mathieu Van Der Poel.
Donc t'en as un petit peu parlé au début, mais toi, qu'est-ce que t'as pensé de sa performance? C'était quand même assez impressionnant ce qu'il a fait, Mathieu Van Der Poel, quoi. Et comme on l'a dit, il attaque où on l'attend pas, dans le secteur d'Orchie. Il pourrait attendre Mont-Saint-Pével, voire même le carrefour de l'Arbre. Hein. Il aurait pu attendre là et faire la différence, parce que derrière, ils étaient cuits. Il n'y avait personne derrière pour le suivre, mon Rolio.
Carrément. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais ce sera la suite de notre propos. Mais l'équipe Alpecin Mécanique, qui, enfin, on a déjà un petit peu évoqué de par la deuxième place de Philipsen, mais c'est l'ensemble de l'équipe Alpecin Mécanique qui a réalisé une superbe partition et qui a réalisé une course de maître, quoi, hein, comme la semaine dernière, à l'image de ce qu'ils ont réalisé déjà au Tour des Flandres. Philipsen, Vermeersch, toute l'équipe a été stratosphérique et a contrôlé la course parfaitement. Voilà, quand on voit que Jesper Philipsen, à mon avis, il en avait un petit peu, et on peut le comprendre, hein, tout à fait, puisque c'est un coureur qui a tout à fait les capacités de remporter ce genre de course. Évidemment, je pense qu'il était très heureux pour Mathieu Van Der Poel, mais on sentait dans son attaque sur le final qu'il avait lui aussi envie de s'illustrer, et il fait deuxième au sprint. Il n'y a pas trop de surprises face à Mats Petersen. On sait que Nils Polite, qui était dans le groupe aussi, ils étaient trois, et Stefan Kühn qui était en chasse patate derrière, mais voilà, on savait que Mats Petersen et Jesper Philipsen étaient les plus rapides au sprint, et même si Jesper Philipsen est peut-être supérieur sur un sprint, enfin c'est une quasi certitude sur un sprint massif tout plat que Mats Petersen, il y avait aussi une logique peut-être à voir Philipsen s'imposer au vu des efforts consentis par Mats Petersen tout au long de la course. Jesper Philipsen a pu contrôler, et évidemment on n'a pas du tout roulé derrière Mathieu Van Der Poel. Donc non, c'est l'ensemble de la partition aussi Alpecin-Déconic qui est à mettre en perspective et à valoriser. Fantastique, quoi. Fantastique. Et puis voilà, les trois monuments de la saison dans la poche. Ça sera un peu plus compliqué. Enfin, ça sera difficile, très difficile de faire le cinque, de faire la manita, parce que le Tour de Lombardie, c'est ça sera beaucoup plus difficile pour l'équipe. Mais en tout cas, on va en parler, j'imagine, d'ici la fin de l'émission, mon cher Elio. Mais il y a Liège Bastogne-Liège qui arrive à grands pas, et Mathieu Van Der Poel pourrait aller chercher un troisième monument consécutif. Je t'entends.
Oui, c'est vrai, t'as entièrement raison, Mourlio. Alors, déjà, une première chose avant de parler de sa course, c'est trois statistiques qui me paraissent impressionnantes.
Ouais.
Tout d'abord, c'est celle que OJCRM vient de nous redire. C'est
et merci d'ailleurs à OJCRM.
Le dernier à avoir fait le Tour des Flandres Paris-Roubaix, c'était Fabian Cancellara en 2013. Et pourtant, les vainqueurs qu'il y a eu dernièrement, Sonny Colbrelli, Dylan Van Baarle, on a eu Philippe Gilbert aussi, des gros calibres, aucun n'ont réussi cet exploit. Et Mathieu Van Der Poel a réussi à leur faire 11 ans après Fabian Cancellara, c'était en 2013. Deuxième statistique assez impressionnante côté Van Der Poel, 5 jours de course, 3 victoires, 4 podiums.
Fou.
Dernière statistique, Milan-San Remo, il aurait pu le gagner, tout simplement. Il aurait pu faire le triplé. Parce que Philipsen, il l'emmène, bien sûr, mais sauf que s'il n'y avait pas Philipsen, le sprint, il l'aurait fait et il aurait très bien pu gagner. Donc déjà, rien que ça. Ensuite, sur sa course à Mathieu Van Der Poel, il a couru intelligemment. Il a fait du Van Der Poel. Il a été impérial dans le sens qu'il a été le plus fort que les autres, mais il a couru intelligemment. Il a fait du Van Der Poel. Il a enfin acquéri cette expérience, contrairement peut-être à un Van Aert ou un Pogacar qui sont encore un petit peu. Alors Van Aert, on l'a pas trop vu, hein, malheureusement, mais Pogacar, par exemple, lui, et on en parlait de cette comparaison avec OJCRM qui en avait parlé, c'est que Pogacar, lui, son problème, c'est que il a peut-être pas encore cette tactique qu'a Mathieu Van Der Poel. Et pourtant, les deux sont au même pied d'égalité, même talent, même équipe quasiment, vu qu'ils ont l'équipe pour rivaliser, pour contrôler la course à cadenasser, comme l'ont fait les Alpecin de Koenig aujourd'hui, et on va en parler. Sur cette intelligence de course, c'est au JCRM encore qui nous le disait. Quelle course de Jenny Vermeersch qui finit sixième quand même. Donc toute l'équipe était au service de Van Der Poel. Il faut noter Sylvain Didier au début de la course qui fait un boulot monstrueux pour pas qu'il y ait d'échappée qui prenne plus de 1 minute 30. Après c'est Vermeersch qui prend le relais, toute son équipe. Philipsen qui finit 3, c'est une sacrée course d'équipe. Et Mathieu Van Der Poel, Van Der Poel, peut-être que sans ses équipiers, alors je ne vais pas dire qu'il ne la gagne pas, mais il ne la gagne pas avec tant de marge et tant de difficultés.
Ouais,
et puis voilà, et ouais. puis pour finir, bah, il a su attaquer au bon moment, là où tout le monde s'y attendait pas, lorsqu'il y a eu la jonction entre le groupe où il y avait Hugo Page, Dries Van Gelstel, où il y a eu cette jonction, il y a eu un moment de flottement jusqu'au secteur d'Orchy. Il a attaqué au bon moment, là où personne l'attendait, alors qu'il y avait Mansan Pevel qui arrivait. Il a accéléré aussi dans la trouée d'Arambert. Donc rien à redire. Encore une fois, c'était la course parfaite pour Mathieu Van Der Poel.
Ouais, et puis il y a une échappée plutôt dans la course c'est Casper Asgreen qui part donc sincèrement, c'est bon, évidemment c'était très 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 long, mais Alpecin De Koninck qui a été là dès le départ pour contrôler, et ils ont fait ça dès le départ, c'est ça qui est impressionnant. Ils ont pas contrôlé depuis seulement les 100-150 derniers kilomètres, non, dès le début de la course, ils ont contrôlé, à ce qu'Asper Asgreen était tout de même quelqu'un à contrôler. Il fallait pas qu'ils prennent non plus énormément d'avance, donc non, c'est une course effectivement d'équipe, et Mathieu Van Der Poel doit être évidemment heureux de pouvoir bénéficier sur le soutien et sur l'appui si étincelant de ses coéquipiers. J'ai une petite demande, j'ai une petite requête pour notre ami OJC RM. Est-ce que, mon cher OJC RM, tu pourrais, j'ai dans le peu de temps que j'ai eu pour rechercher sur le net avant le barbecue vélo cette stat, ou plutôt ce record, est-ce que tu aurais je crois que c'est jamais arrivé, hein. Je crois que ça serait historique de faire Flandre, Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Je crois que ça n'a jamais été fait. Je t'entends plus, mon cher Elio.
Alors je vais vérifier moi aussi de mon côté, mais peut-être que Merckx l'a déjà fait. Peut-être que Merckx l'a déjà fait, c'est possible.
C'est ce que je me demande. Je crois pas, hein. Je crois pas, mais je pense vraiment pas, mais. Ouais.
Donc aussi, donc voilà, au JCRM, encore une remarque très 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 intéressante, c'est que il nous fait remarquer que on dirait la Quick Step avant, quoi. En fait, on est dans une domination où la Quick Step, par exemple, pouvait aligner Bonnen, Terpstra, Gilbert, Stibar, Lampaert. Bah là, c'est pareil. On en a trois dans les six premiers, quoi. Trois dans les six premiers, et ils font.
Bien sûr, et une équipe qui fait pas beaucoup de bruit. Je trouve qu'on n'en entend pas sur la place publique. Voilà, on n'entend pas parler.
Et oui, alors je te coupe, le record a bien été fait. Eddy Merckx, en 1973, a remporté les Flandres. C'est pas sûr. Je revérifie, je te redis.
On va
creuser ça, on va dire.
Bien sûr. Mais en tout cas, je disais que les Alpecin De Koninck, ils font pas énormément de bruit. C'est une équipe qui s'est construite petit à petit, et qui y a pas des coureurs. Alors on devient des stars, hein, mais il y a pas des coureurs qui sont. Enfin, c'est pareil pour tous les hommes entre guillemets de l'ombre, mais ils sont pas beaucoup mis en avant. Mais ils font gagner et ils font briller Mathieu Van Der Poel. Alors, évidemment que Mathieu Van Der Poel a un talent assez extraordinaire, mais il faut aussi des coureurs pour pouvoir contrôler une course et pour pouvoir mettre dans les meilleures dispositions possibles son leader. Et c'est ce qui a été fait, encore une fois, par les Alpecin De Koninck. Après la démonstration aussi de la semaine dernière du côté du Tour des Flandres, là, le refaire une semaine après sur Paris-Roubaix, pour s'adjuger un troisième monument, hein, l'ensemble de l'équipe Alpecin De Koninck, c'est bluffant, c'est impressionnant.
Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable, hein, quand même ce qu'il a réalisé notre cher Mathieu.
Apparemment, le JCRM nous confirme que Eddy Merckx n'a jamais fait le triplé.
Donc, non, c'est Gant, ça serait, il a réussi à faire Gant, Wevelgem, Paris-Roubaix, Liège, mais il n'a jamais réussi à faire Tour des Flandres. Tour des Flandres, son meilleur résultat pour un éventuel pour un éventuel triplé. C'était troisième. Il avait réussi à faire troisième du Tour des Flandres la même année. Et il a réalisé cet exploit une fois, troisième du Tour des Flandres, vainqueur de Gent-Wevelgem, Paris-Roubaix, puis de Liège. Et il a gagné l'Amstel juste après aussi.
Est-ce que mon cher Elio, je peux te laisser mouliner un petit peu? Tu fais ça à merveille, un petit peu meublé, parce qu'il faut que j'aille chercher un mouchoir, parce que je crois qu'il y a une rhinopharyngite, hein, donc.
On te souhaite bon rétablissement.
J'arrive.
Alors oui, donc sur cette Quick Step, hein, Quick Step, qu'est-ce que je raconte là? Cette équipe Alpecin de Koenig, qui est quand même assez impressionnante, comme l'a dit Rulio, hein, il faut à peu près tout le monde, quoi. Il faut des personnes entre guillemets qui se sacrifient, mais c'est ça une grande équipe, et c'est ce que faisait la Quick Step, qui cadenassait la course, qu'ils arrivaient à tout simplement contrôler de bout en bout. Et là, c'est ce qui a été merveilleusement fait par cette équipe Alpecin de Koenig. Et donc les adversaires n'ont rien pu faire. Alors on va vous rappeler le podium. Donc deuxième, Jesper Philipsen. Et troisième, Mats Pedersen. Quatrième, Nils Polite, quatrième. Et enfin, Laurens Pitti qui se classe septième. Ensuite, et puis voilà. Donc ça fait quand même un beau top 10, des belles courses. Qu'est-ce que tu as pensé de la course des entre guillemets battus, mon Rulio?
C'est dur pour eux, quoi. Quand il y a un monstre, un extraterrestre, un géant, hein, tout ce que vous voulez devant vous. Encore une fois, je trouve que Mats Pedersen a fait tout ce qu'il a pu. C'était peut-être entre guillemets le candidat que l'on attendait le plus pour pouvoir rivaliser avec Mathieu Van Der Poel. Il fait troisième. Voilà, il a réussi, enfin il a essayé en tout cas de résister. Il a essayé de rouler quand Mathieu Van Der Poel a pris la suite, mais voilà, il est tellement fort, notre FDPD national, que ça plairait pas aux Néerlandais que je dise ça. On va dire ça parce que il y a Raymond Poulidor dans l'histoire. Mais la course des battus, c'est compliqué, quoi, quand on est adversaire de Mathieu Van Der Poel dans une configuration pareille, avec une aussi grande et importante envie de Mathieu Van Der Poel de performer. On est un petit peu résigné, quoi. On sait que à un moment ou à un autre il va dégainer le Néerlandais, et on se prépare justement entre guillemets à subir cette fatalité. Il y aura toujours des petits malins qui diront mais il fallait essayer et tout ça, mais quand on a aussi Mathieu Van Der Poel face à soi, on n'essaye pas non plus, on prend pas non plus énormément de risques, parce qu'on sait qu'on peut être contré dans la foulée, qu'on peut faire des efforts pour rien. Donc c'est extrêmement difficile, hein. On a le même discours lorsque Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Wout Van Aert sont également de la partie. Mais voilà, Mats Pedersen qui fait 3. On va parler certainement de nos Français. Ça a été dur pour Christophe Laporte qui a crevé. Oui.
On va en parler un petit peu plus tard de la course des Français.
Et après, on va pas refaire le monde, hein. On sait pas ce qui se serait passé, mais il me semble que Wout Van Aert était malade. Donc, est-ce qu'il aurait été en mesure de pouvoir j'ai dit Van Aert
malade, oui, Van
Aert. Non, Christophe Laporte, je voulais parler
Christophe
de...
Laporte, non, il est alors il ressortait de maladie, oui, mais il avait l'air quand même en tout cas au début, avant sa crevaison, il avait l'air d'être présent. On en parlera un petit peu plus tard,
mais je crois que quand même il était pas au top physiquement, oui, d'après ce que j'ai pu entendre et lire, c'est pour ça, mais ouais carrément. Carrément, je trouve que c'est compliqué, évidemment, pour les poursuivants, pour les adversaires de Mathieu Van Der Poel.
Bah en soi, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, pour Mathieu Van Der Poel. Alors, on va reparler, hein, bien sûr, de certains incidents. Par exemple, Laurens Pitti qui a chuté, il me semble, qui n'a pas pu jouer le podium à cause de ça. Mais franchement, on peut pas être déçu à ce stade-là. Il y avait un homme qui était en forme, qui était largement supérieur, c'était Van Der Poel. Alors, j'irais pas à dire qu'il fallait se laisser résigner, mais le problème, c'est qu'au niveau tactique aussi, ça s'entendait pas derrière. Il y a eu aucune entente entre... Et même derrière, quand on regardait la course, ils étaient tous cramés. Ils étaient tous cuits. Comme je l'ai dit, quand on est arrivé avant le secteur d'Orchy où a attaqué Van Der Poel, il y a eu une jonction entre le groupe où il y avait, par exemple, Hugo Page, Van Gestel, Nassen, Van Dijk, Pitcock, etc. Fred Wright aussi qui était présent. Et puis, bah, le problème, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde était cramé. Et Van Der Poel, il a dû le voir et il a attaqué, ça doit être pour ça. Donc, moi, je pense que non, il n'y a pas à être déçu. Et par exemple, pour un Mats Pedersen, c'est déjà énorme de faire troisième. D'autant plus que devant, tu as Philipsen qui est, comment dire, le meilleur sprinter du monde, que tu as failli, tu n'étais pas loin de finir deuxième. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Il y a 50 mètres près ou un truc comme ça. Voilà, Laurens Pitti fait ses débuts, il est 7e, c'est quand même pas mal. Stéphane Kung, bah, 5e, c'est aussi pas mal. Quoi.
Donc, une belle course de la Groupama.
De la belle course de la Groupama, oui, c'est à noter. Van Gestel qui finit 13e, ça non plus, on ne s'attendait pas. Mais voilà, moi je pense que non, il n'y a pas tant de débattre là-dessus. On peut pas,
mais carrément.
On peut pas être déçu. On peut pas être déçu de stop 10 et même de cette course. Alors, par contre, une autre déception quand même, on en parlait, je pense que bah, parce qu'on
je veux juste excuse-moi mon Ayo avant que tu partes sur autre chose, mais je suis tout à fait amplement d'accord avec toi et je trouve que tu pointes quelque chose d'absolument essentiel, c'est que en fait je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait pas. Ils étaient obligés d'être résignés parce que vu le tempo imposé par cette équipe d'Ekunik, et au vu de la vitesse à laquelle
c'est le record qui a été battu de l'année dernière, ouais. Encore une fois, alors ça aussi on pourra en parler, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou quelque chose comme ça, mais oui, c'est le record de l'année dernière a été battu, oui.
Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Enfin, tout simplement, c'est de l'ordre de l'impossible d'attaquer, d'essayer de faire quelque chose, de repartir à la relance pour essayer de rattraper Mathieu Van Der Poel, ou alors en amont, essayer de prendre de l'avance et de tenter un petit coup et de surprendre Mathieu Van Der Poel. Je pense que ça n'allait trop vite, qu'ils étaient déjà exténués, et tout simplement physiquement c'était de l'ordre de l'impossible.
Oui, t'as entièrement raison, hein, mon Roulion, hein, je suis d'accord. Je pense qu'il y avait rien, il y avait rien à faire côté ouais, de, non, il y avait rien à faire. Alors juste, je me permets de vous demander sur Twitter, n'hésitez pas à liker le live hein, sur Twitter, hein, ça ferait plaisir. Et puis aussi, n'hésitez pas à retweeter pour que les gens que vous connaissez éventuellement puissent nous faire un petit coucou, faire connaître Radio Merguez & Co. Ça pourrait être sympa. Merci à vous sur Twitter qui vous nous écoutez. C'est toujours sympa. Voilà. Et puis maintenant, bah, on va parler encore une fois du sujet qui fâche. Chaque course, on a la pression de se répéter. Les Français, encore à la ramasse. Alors, on va commencer par notre plus grand espoir, d'ailleurs, qui était dans la miniature du live, hein, si vous sur YouTube, Twitter, Twitch, etc. Christophe Laporte, qui a été victime de malchance, crevaison dès le premier secteur pavé, et puis déjà qu'il était sur sa course de reprise, et puis voilà, hein, donc déjà qu'il était là sur la course de reprise, qui ressort de maladie, malchance. Alors il n'a pas lâché parce qu'il finit quand même seulement entre guillemets à 6 minutes 28, il est dans le groupe Pitcock.
Je trouve qu'au contraire,
c'est une performance assez honorable quand même, mais ah oui, Laporte malheureusement victime de malchance quoi, et donc alors moi j'ai pas envie de m'inquiéter en soi, mais le truc c'est que on va saluer bien sûr son courage hein, parce qu'il a fini la course, d'autres auraient abandonné. mais il n'a jamais été en capacité de revenir, alors qu'au début, il y avait seulement 30 secondes peut-être avant que ça commence à lâcher. Donc moi, je te pose la question, est-ce qu'il faut être déçu de Laporte, ou en tout cas 25e, est-ce que c'est pas trop peu? Il aurait peut-être pu rentrer dans le top 15, 20.
Non, au contraire, moi je trouve que c'est une très très belle performance de la part de Christophe. Enfin, une très très belle, c'est peut-être un petit peu démesuré ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, comme tu l'as souligné, il faut lui adresser un gros coup de chapeau, parce que réussir à rester dans le top 25 de ce Paris-Roubaix, au vu de la vitesse à laquelle la course s'est déroulée, c'est quand même un très beau coup de la part de Christophe, surtout que, comme tu l'as si bien dit, il crève sur le premier secteur pavé, donc de un, il perd du temps, et puis de deux, dans la tête, quand vous revenez de maladie comme ça, que vous effectuez votre course de reprise sur un grand mouvement, c'est pas simple aussi, hein. Il s'est peut-être dit, notre cher Christophe, déjà que physiquement, je suis peut-être pas à 100% de mes capacités, là, il m'arrive un ennui dès le premier secteur pavé, ça va être dur, et quand dans la tête ça va pas, en général, ça se répercute sur vos jambes, donc
bien sûr.
Non, je pense qu'il faut absolument pas s'inquiéter pour Christophe Laporte. Il revient de maladie, il a eu de la malchance, on peut lui souhaiter que du courage et qu'il revienne au top de ses capacités. Après, c'est certain qu'on a toujours envie de voir des tricolores aux avant-postes, mais malheureusement, il y a tellement de concurrence entre guillemets étrangère, enfin des coureurs qui sont pas français, qui sont au top, que c'est très dur. Et alors, je suis en train de regarder, de chercher dans le classement à quelle place finit
34e, Hugo Page. Alors là, oui, j'allais en parler. Hugo Page qui a pu accrocher un petit peu le groupe et puis qui lâche. Moi, j'ai envie de te poser la question en général. Est-ce que maintenant, ça commence à devenir normal de voir, ils étaient quand même 19 au départ, les Français. Est-ce que maintenant, ça devient presque normal, anecdotique, de voir les Français si mal classés? Parce que quand même, c'est une course qui a lieu en France. Paris-Roubaix, c'est toujours une autre ambiance, quoi. C'est toujours quelque chose d'extra. Alors, ça aussi, on pourra en reparler, mais c'est vrai que les physionomies de course changent chaque année. Donc là, on n'a plus l'impression qu'il y a des mecs comme Chavanel ou Petit qui, par exemple, Chavanel n'est plus en course, mais je prends son exemple parce que c'est souvent lui qui faisait les meilleurs résultats sur Paris-Roubaix, il adorait ses courses.
Bien sûr.
Et voilà, je prends cet exemple, il est souvent dans l'échappée, c'est grâce à ça qu'il arrivait à accrocher un top 10, grâce à sa place dans l'échappée matinale. Même chose pour Petit quand il finit 6e, ou pour Laurent Pichon en 2022. Mais maintenant, est-ce que, avec les nouvelles physionomies de course, c'est vraiment le plus fort qui peut figurer dans le top 10? Parce que rien que finir dans le top 10 aujourd'hui, c'était une sacrée perf, quoi. Il fallait le faire sur une course encore toujours plus rapide, toujours plus dangereuse.
Vraiment.
Donc, est-ce que pour toi, ça devient presque anecdotique, quoi, de voir les Français si mal classés?
Oui. Surtout que y a une concurrence absolument extraordinaire, et on a de la malchance pour nous que ces coureurs extraordinaires ne soient pas français, tout simplement. Alors évidemment, c'est pas
dire que Van Der Poel il aurait pu être français.
Oui. Non, mais c'est pas une insulte pour nos coureurs français, loin de là, hein. C'est la réalité. On leur souhaite que du bonheur, du courage, et qu'ils puissent évidemment le plus rapidement possible faire des excellents résultats. Mais ça devient une habitude parce que pour plusieurs raisons. Alors normalement, on peut avoir un Christophe Laporte classé dans ses
dans ses 10 premiers minimum.
Voilà, c'est ça. Là, simplement, c'était une mauvaise période pour lui, qui n'a pas contrôlé. Mais sinon, voilà, on peut avoir Christophe. C'est sûr que on préférait avoir des Frenchies bien classés, mais c'est comme ça.
Ouais, c'est vrai. Alors il y a aussi OJCRM qui nous dit une information plutôt intéressante. Vous parlez pas de la spectatrice qui a lancé sa casquette et qui visait clairement Mathieu Van Der Poel. Adam Hansen compte porter plainte. Donc je ne connaissais pas cette information. Bah, merci au JCRM de nous l'avoir dit. Alors bien sûr, on le rappelle, sur les courses, messieurs les spectateurs, c'est vous qui faites tout, bien sûr. Encore, c'est vous qui faites la magie des courses, hein, aussi, bien plus que les. En même temps que les coureurs, hein, aussi, hein, sans vous le public, la course serait bien triste. Et on l'a bien vu pendant le Covid, hein, quand il y a eu ce Tour des Flandres sans spectateurs. Voilà, il y avait une foule record encore dans la Trouée d'Arambert, dans le Carrefour de l'Arbre, dans Mont-Saint-Pével. Donc, messieurs les spectateurs, ayez du respect pour les coureurs et écartez-vous bien.
Mais pour la défense de cette dame. Est-ce qu'elle a voulu tirer son grand coup de chapeau à Mathieu Van Der Poel? C'est pour ça qu'elle a jeté sa... Non, je plaisante. Non, c'est une blague.
D'ailleurs, juste au moment où JCRM nous parle de ça, je tombe là-dessus sur le Instagram d'Eurosport, vu que j'ai fait un petit tour sur l'Insta de Radio Merguez & Co. Et juste au moment, voilà, je viens de voir la scène. Et oui, c'est assez flagrant. C'est assez flagrant. Il y a vraiment une spectatrice qui lance une casquette sur Mathieu Van Der Poel. Donc oui, c'est bien triste.
Ouais, et ma blague a mis de côté, bien évidemment, hein, c'est absolument débile, c'est n'importe quoi de faire ça. Et alors d'un côté, bien évidemment, c'est terrible de faire ça, et d'un côté, je trouve que il faut aussi souligner, c'était pas le bon moment pour le faire, mais sincèrement, quand on regarde toutes les courses qui sont organisées en extérieur, hein, c'est le vélo avec tous ces spectateurs amassés au bord des routes, ça pourrait être extraordinairement dangereux. Donc, dans la plupart des cas, globalement, les spectateurs se tiennent très très bien, et je trouve que c'est une réussite. C'est génial, c'est génial, mais je me dis, on pourrait avoir beaucoup plus d'accidents que ça. Donc, en général, les gens sont très disciplinés et c'est super. Mais effectivement, ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de stigmatiser ces personnes qui ont des agissements absolument anormaux et qui doivent être, bien évidemment, sanctionnés. Même, je pense que ça doit être absolument sanctionné parce que ça met en péril la santé des coureurs.
T'as entièrement raison. Alors juste avant, après, tu me tends une belle perche, on va pouvoir en profiter pour aller sur l'extra sportif. Mais juste avant, on va encore noter la belle remarque d'OJCRM. Le problème, c'est que c'est l'entraînement des équipes françaises aussi. Quand Laporte va chez Jumbo, il n'avait jamais encore fait d'entraînement à haute altitude dans ses années Cofidis. Et il y a eu une différence quand Laporte il est passé chez Jumbo. Dès sa première année, il gagne sur Paris-Nice, il gagne sur le Dauphiné, il gagne une étape sur deux tours. Ensuite, il finit champion d'Europe. Et t'as entièrement raison, OJCRM. Hein. Et voilà, là, des coureurs comme Adrien Petit, par exemple, qui pourraient faire des belles perfs, qui adorent ces courses, on sent bien qu'on reste quand même chez des équipes limitées qui ne permettent pas forcément de développer pleinement le potentiel de ces coureurs. Et il y en a plein, hein, des coureurs comme ça qui pourraient être des grands champions. Il y en a plein des espoirs du cyclisme français à chaque fois. Chaque année, on a des noms à chaque fois. Par exemple, Guillaume Martin. Guillaume Martin, ça a été un des plus grands espoirs. Alors, c'est pas sur Roubaix, mais jamais il a pu confirmer. Donc voilà, c'est une belle remarque encore que tu nous fais. Mon Rulio, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis pas assez spécialiste des entraînements des équipes françaises pour le dire. Je sais pas comment ça se passe réellement, mais c'est ouais, je sais pas, je peux pas répondre à cette question, mais après voilà, de plus en plus d'équipes s'entraînent en altitude et ça favorise forcément les performances parce que il y a des bénéfices énormes à aller chercher l'altitude et aller développer les globules rouges. Après, je pense que vous êtes davantage apte que moi pour parler des calendriers vraiment précis et de ce que font chaque équipe. Ah, mon
En
émoji.
soi, oui, la remarque est très pertinente. Et oui, c'est vrai que malheureusement, nos Français manquent parfois de préparation. Alors maintenant, on va basculer sur l'extra sportif avec deux choses. Au niveau de la sécurité des coureurs, on va déjà rester sur la course, sur Paris-Roubaix. Cette chicane, alors on va en parler parce qu'elle a fait polémique. Le résultat en soi est plutôt bon vu qu'il n'y a eu aucune chute, mais il faut contextualiser. Ils étaient 30 à l'entrée de la trouée d'Arenberg. Donc un groupe de 30, ça ne réagit pas de la même manière qu'un groupe de 100 coureurs.
Bien sûr.
Donc, comment dire, est-ce que à l'avenir, faut conserver ce genre de dispositif, peut-être faire des meilleurs dispositifs, hein, mais cette chicane en soi, pour toi, est-ce que c'était une bonne idée?
Bah c'est toute la complexité de la question parce que l'ambition, c'est de ralentir les coureurs et de justement limiter ces chutes derrière. Après, c'est vrai que ça crée aussi de l'embouteillage et qu'il peut y avoir des accidents effectivement liés à cette chicane. C'est une question complexe. C'est une question complexe parce qu'en plus, ça empêche les coureurs de prendre de la vitesse
Oui, voilà ça.
avant la trouée d'Arenberg.
C'est ça, oui. Et on sait que pour limiter les risques de crevaison, de problèmes mécaniques, il est plutôt bon d'arriver avec de la vitesse sur cette
Et
trouée
surtout, je pense
d'Arenberg.
que l'ambition, c'est de réduire en plus et c'est de faire entre guillemets un écrémage. Avant
Exactement.
de pénétrer tel des artistes sur cette scène de la trouée d'Arenberg, parce qu'évidemment la chaussée est réduite et arriver à 15 000 sur cette trouée mythique, ça c'est problématique. À part si on veut faire du hors-piste, mais donc c'est difficile, c'est difficile comme question. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Surtout que les coureurs, je trouve, je pense, feraient attention avant cette chicane, quoi. Feraient gaffe à pas bien se positionner et à l'aborder tel un rond-point. Mais voilà, chacun peut avoir son avis, bien évidemment.
Oui, effectivement. Alors en soi, l'idée est plutôt bonne, vu que, alors même si on l'a donc, comme je l'ai dit, le but c'est d'arriver à une vitesse assez élevée tout de même dans cette trouée d'Arenberg pour pouvoir éviter les risques de problèmes mécaniques et de problèmes de crevaison. L'idée en soi est plutôt bonne, mais comme vient de nous le dire OJCRM, c'est du proviseur chez Chicane. Ils ont été avertis 10 jours avant la course. C'est compliqué de faire des gros travaux. Oui, certes. Mais voilà, Mathieu Van Der Poel d'ailleurs avait réagi avec un tweet assez marrant. It's a joke. C'est une blague. Alors, en soi, il faut être mitigé. Alors, bien sûr, le sujet de cette chicane me tend encore une perche pour le prochain dossier qui, le prochain de
Un dossier qui est sur la table,
De
effectivement, hein.
dossiers sur la table, voilà. On en reparlera juste un petit peu après. Cette chicane en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais déjà, oui, très mal organisée. À 10 jours de la course, bah, le timing est très mauvais, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, c'est pas la même chose de voir un peloton arriver à 100 km, à 100 coureurs sur cette chicane qu'à 30. C'était quand même un enchaînement de deux virages angle droit et un en épingle. Il y aurait pu avoir un strike complet. Donc, moi, j'ai envie de dire.
Surtout que les coureurs veulent se placer. Euh,
Oui,
donc,
oui.
euh, ce qui est ce qui est euh, ce qui est décisif aussi, c'est avant même la chicane, c'est se placer. Ça serait se placer avant d'aborder cette chicane, parce que évidemment, justement, pour éviter les embouteillages, pour éviter les accidents au sein de cette chicane, on se place avant, quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait aussi créer des petites problématiques, même si la route est plus large, je le crois, avant, quoi. Donc justement, c'est bien, on discute, il faut qu'il y ait du débat comme ça, c'est important de s'arrêter, de prendre le temps, de peser le pour et le contre, parce que c'est tout simplement la sécurité des coureurs.
Exactement, oui. Sur cette sécurité des coureurs, donc, en soi, c'est plutôt une bonne idée, mais il faudrait plus d'organisation. Mais comme l'a dit Marc Madio, on arrive sur des machines, c'est plus dangereux qu'une Formule 1, et il n'a pas tort. Il y a plus de morts en cyclisme qu'en F1. C'est quand même des bolides de plus en plus performants. Les performances, on cherche toujours à aller plus vite. Il y a aussi les oreillettes, les capteurs de puissance, tout ça, c'est des données à prendre en compte. Donc, moi, je pense que la sécurité des coureurs doit passer avant tout. Et voilà, donc, je pense que ça partait d'une bonne intention, cette chicane, mais à l'avenir, essayer d'être plus prévoyant. Et donc, sur cette sécurité des coureurs, assez intéressant d'en parler. Il y a eu une grosse chute sur le Tour du Pays Basque. Grosse chute qui a mis au tapis Vingegaard, Evenepoel, Roglic, qui a mis également Steph Kras côté Total Energy, Luis Menties qui est tombé, beaucoup de monde, quoi.
Jevine,
c'est ça, qui est tombé aussi. Et puis il y a eu à travers la Flandre avant, Van Aert, Pedersen qui était tombé, Guirmet aussi qui était tombé. Ça commence à faire beaucoup, là, ces chutes. Qu'est-ce qu'on pense, mon Roulieu?
Oui. Alors, je pourrais pas vous dire ce qui s'est réellement passé au niveau des chutes à l'instant T, parce que j'ai pas vu les images des chutes et je sais pas à quel endroit ça s'est produit, donc vous allez m'éclairer.
Attends, tu peux répéter, Roulieu, parce que j'ai pas entendu.
Non, pas de souci. Je disais, je vais pas pouvoir vous éclairer parce que j'ai pas vu les chutes et j'ai pas vu les endroits.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que c'est ton avis que je te demande sur cette sécurité des coureurs. Ouais. On privilégie souvent le spectacle, d'aller toujours plus vite, des courses qui vont toujours plus vite. Franchement, ok.
Ouais.
Est-ce que ça commence pas à faire beaucoup? Parce que là, ça fait quand même deux grosses chutes en une semaine, quoi.
Ouais, c'est pour ça que les organisateurs pensent à la sécurité des coureurs, bien évidemment, font leur maximum pour pouvoir prendre les meilleures dispositions possibles pour assurer cette sécurité-là. Et effectivement, là, on a une semaine qui est vraiment terrible autour du Pays Basque. Et puis, comme le souligne OJCRM, j'étais pas au courant, mais apparemment Remco Evenepoel a failli se prendre de pleine face à un arbre, et peut-être à une vitesse absolument démentielle. Donc,
ça on est dans une descente, quoi.
Gravissime. Donc, non, c'est sûr que plus on va vite, plus il y a des chances que la chute soit grave. Donc, ça pose beaucoup de questions, et c'est pour ça que je pense que les organisateurs sont au taquet et son pied au plancher pour pouvoir prendre les meilleures dispositions possibles. Au JCRM qui nous dit le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de bons coureurs et tout le monde veut être devant. Oui, c'est clair.
Est-ce que le problème ne viendrait pas d'ailleurs? Parce que, et c'est ce que soulignait très justement Marc Madio, c'est que, comment dire, on voit de plus en plus de bons coureurs, oui, effectivement. Des machines toujours plus performantes, une course au sponsoring, à l'argent, au classement, au top, tout ça pour satisfaire les sponsors, le spectacle tout simplement, aussi qui est demandé, par exemple. Enfin, ouais. Je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand j'avais vu en 2021 ce Paris-Roubaix où avait remporté Sonny Colbrelli sous la boue, tout ça, Moi, j'avais trouvé ça impressionnant, à juste titre. Par exemple, à ce Paris-Roubaix, on annonçait des conditions dantesques. Un Paris-Roubaix boueux, sous la pluie même, parfois, bah, ça peut paraître impressionnant. Et pour le public, bah, c'est tout de même assez intéressant, quoi. Donc, est-ce que le problème, il ne viendrait pas d'ailleurs ?
Le problème, comme tu l'as si justement dit, mon Elio, je pense que c'est qu'effectivement, les coureurs vont de plus en plus vite, qu'ils ont des machines de plus en plus performantes qui favorisent cette vitesse. Et effectivement, comme l'a dit, je trouve, au JCRM, c'est que ça frotte de plus en plus, je pense, hein. Et que tout le monde effectivement va être devant, que les courses se décantent extrêmement tôt aussi, donc forcément le risque de chute est plus important.
Parce comme que le dit justement JCRM aussi, on l'avait déjà redit, hein, mais il y a les oreillettes, les capteurs de puissance aussi.
Bien sûr, tout à fait. Non, mais je suis absolument d'accord. Toutes ces distractions entre guillemets, eh bien, elles créent un potentiel danger. Il y a aussi, je trouve, on en parlait il y a quelques instants. Je disais que je trouvais qu'il pourrait y avoir encore plus de chutes, qu'on a de la chance de ne pas avoir beaucoup plus de chutes liées à des événements spectateurs.
Mais bien sûr.
Il y a quand même.
L'époque où on mettait des clous sur la route ou tout ça, ça n'existe presque plus, quoi. Donc.
Ouais. Mais je trouve qu'il peut y avoir quand même de. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Je dis peut-être une bêtise, hein. Mais peut-être qu'il y a de plus en plus de dangers tout de même qui proviennent des spectateurs, et c'est justement cette médiatisation et cette spectaclisation, ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave, on est entre nous. Et par contre, je tiens à souligner que ces problématiques que peuvent provoquer les spectateurs, elles ne viennent absolument pas des supporters, des extraordinaires ultras ou des gens qui se font la fête. Le CUP, le collectif Ultra Alpino, qui nous a régalé avec bien évidemment ce virage absolument génial chez Thibaut Pinot, ou alors à l'arrivée du Tour de Lombardie, eux ont mis l'ambiance, ça a été fou, ça a été la fête, c'était extraordinaire, mais ils n'ont créé aucun problème. Comme quoi, on peut faire la fête tout en étant respectueux et tout en laissant place et sécurité au spectacle.
Bien sûr, le cyclisme est une grande fête et ce serait dommage, quoi, de la gâcher comme ça. Écoutez, je pense que voilà, le plus important, comme on l'a dit, c'est la sécurité des coureurs. Il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui sont morts pour faire ce sport. On a la chance d'avoir refermé une lourde histoire derrière nous, celle du dopage, qui existe toujours, bien sûr, hein. On n'en sait rien, si ça se trouve, il y en a encore du dopage dans le peloton. Mais on va dire que je pense que le plus gros est fait, le plus gros est derrière nous. Alors, ça serait quand même dommage de rajouter encore plus d'éléments de tension, de difficultés comme ça, supplémentaires. Et je pense qu'il faut sérieusement se poser des bonnes questions au niveau de la sécurité des coureurs, qui reste essentielle.
Puis en tout cas, il faut faire vraiment le maximum pour assurer le plus possible la sécurité des coureurs. Et puis on peut avoir évidemment une nouvelle fois une grosse pensée, parce qu'il ne faut jamais les oublier pour Gino Bader, qui a été sur le Tour de Suisse malheureusement. Et alors forcément, on peut évidemment se poser des questions derrière, évidemment être absolument compatissant envers sa famille et ses proches, parce que ça reste en premier lieu le décès de quelqu'un. Mais après, effectivement, il faut que ça puisse aussi servir à ce que d'autres incidents terribles comme celui-ci ne se reproduisent pas. Et effectivement, la vitesse des coureurs est une question et je trouve un facteur qui doit être analysé, en tout cas, et pris en compte. Et le CRM nous fait remarquer dans le chat qu'il y a eu 150 chutes lors de la saison, 150 en 2022 et 150 de plus en 2023, 300 chutes. Donc voilà, c'est l'écart est tellement considérable que on se demande si c'est le fruit du hasard ou pas. On n'a pas l'impression, en tout cas.
Oui, exactement. Bon, je pense qu'on aura bien fait le tour sur cette question, mais voilà, vraiment, faites bien attention. Et puis, il faut vraiment privilégier cette sécurité des coureurs, parce que voilà, c'est eux qui font le spectacle. Voilà, comme tu l'as dit, Pensez à Gino Madder, un des grands espoirs du cyclisme suisse qui est tragiquement décédé. Je vais le rappeler aussi, c'était le décès du coureur Michael Goller, je n'ai plus la prononciation, veuillez m'excuser, mais qui est mort sur cette même course de Paris-Roubaix. Donc une grosse pensée à lui et puis à ses proches aussi, parce que voilà, le cyclisme s'arrête, c'est un sport, ça reste un jeu aussi de base, c'est quand même beau aussi de pouvoir vivre de sa passion. Alors voilà,
j'ai rigolé par rapport à ta prononciation, mais évidemment que c'est affreux. On parle d'un coureur qui est décédé, et c'est terrible, parce que d'autant plus, enfin, en premier lieu, bien évidemment, encore une fois, c'est le décès qui est tragique, mais voilà, ça doit être
Gollert, voilà, Michael Gollert en 2018, ouais. Voilà.
ça doit être évidemment une fête. Et puis quand on a ce genre d'événement là, c'est dans le sport, c'est terrible, terrible.
T'as entièrement raison. Mon Rulio, t'as raison. Et puis, maintenant, on va ouvrir un dernier dossier, je pense, qui peut être intéressant. C'est le Tour du Pays Basque, en tout cas sur les résultats.
Nos Français, ils sont là.
Avant de se projeter sur les Ardennaises, sur l'Amstel Gold Race qui arrive bientôt, c'est les bons résultats de nos Français. Paul Lapeyra qui remporte la deuxième étape au sprint. Alors il y avait pas un plateau exceptionnel de sprinteurs autour de...
Il était dans un petit groupe,
ouais. Il était dans un petit groupe, mais voilà, il fallait la gagner. C'est une étape en World Tour et c'est déjà toujours bon à prendre. Et par contre, encore plus impressionnant, c'est l'étape 5 remportée par Romain Grégoire, sur ce Tour du Pays Basque. Belle performance. Et puis on va noter aussi la 8e place de Kevin Vauquelin, qui finit à 2,38 au général de Juan Ayuso, le vainqueur du Tour du Pays Basque, devant Carlos Rodriguez et Mathias Kelmejeu. Marc Soler finit 4e, McNulty finit 5e, Peyu Bilbao 7e, Isaac Del Toro qui confirme 7e, puis Kevin Vauquelin 8e, et puis Alex Baudin, français d'AG2R, la mondiale, qui finit 10e. Belle performance de nos Français sur ce Tour du Pays Basque. Alors, bien sûr, il y a eu tous les grands favoris qui ont été mis au tapis, on va pas en parler, hein. On a déjà bien épilogué le sujet. Mais voilà, c'est quand même bon de voir ces belles performances sur des courses à étapes.
Oui, tout à fait. Juste peut-être avant, après, comme ça on peut se concentrer, mon cher Elio, sur nos Frenchies, mais peut-être juste malheureusement rappeler le bilan médical qui a produit
cette
chute terrible lors de ce Tour du Pays Basque, quand même, avec notamment parce qu'on a parlé de Jevine, tu as cité les autres coureurs aussi qui ont chuté, mais Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont tous trois dû abandonner. Et puis pour le leader de la Visma Liesbach, Jonas Vingegaard, il a été touché au pneumothorax, avec une infection pulmonaire et des fractures, plusieurs fractures à la clavicule gauche et aussi du côté des côtes. Hein, il y a aussi des fractures au niveau des côtes.
Ça risque d'être long, ouais.
Ouais, pour Remco, c'est des fractures au niveau de la clavicule droite et de l'omoplate droit aussi. Et puis pour Primoz Roglic, c'est des dermabrasions, on dit ça, il me semble. Dermabrasions, ouais, c'est ça. Donc c'est moins entre guillemets grave pour Primoz Roglic. Après pour Vingegaard et pour Evenepoel, évidemment c'est terrible. Ils vont être là, ça fait là, on est quoi, en avril, début avril, mai, juin, juillet, c'est, ça va être très chaud pour le Tour de France, en tout cas pour arriver lancé et à 100%, ça va être extrêmement difficile. Mission très dure, donc évidemment que ça a un énorme impact sur le Tour de France pour Vingegaard, pour Remco Evenepoel aussi. Voilà.
Oui, c'est vrai, ça risque d'être compliqué pour ces hommes. Hein, donc, on en reparlera au moment donné, on verra bien ce que nous disent les médecins sur leur nombre de mois d'absence, mais OJCRM nous dit justement, sans Poggi, sans Remco, Vingegaard, le tour sera intéressant. Alors, Poggi sera là sur le Tour de France, mais par contre, Remco et Vingegaard risquent de louper Roglic, moins sûr. Mais du coup, oui, le spectacle sera peut-être plus intéressant. Je pense qu'il y aura peut-être des Français au classement général. Et on va en parler, des Français. Donc, victoire de Romain Grégoire sur la sixième étape, victoire de Paul Lapeyrère au sprint pour la deuxième étape. Deux belles victoires en grand tour, surtout pour des équipes qui en ont besoin, ça, surtout cette équipe AG2R, hein, ça fait du bien, quoi.
Ouais, c'est
et
clair.
Et puis, juste avant que tu parles, bien aussi sûr, la huitième place de Kevin Vauclin au classement général, qui risque aussi de donner des bons points à cette équipe Arkea qui confirme qui est pas mal.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et une très très belle semaine, comme tu l'as si justement dit, pour l'équipe AG2R Citroën et notamment pour Paul Lapeyrère, donc
Kevin Vauclin qui va empocher 100 points UCI pour son équipe, voilà, c'est sympa.
C'est sûr, et pour revenir sur cette équipe AG2R Citroën, Paul Lapeyrère, le natif de Fougères qui a fait toutes ses classes à Chambéry, hein, au Chambéry Cyclisme Formation, puis ensuite à AG2R Citroën, aller chercher cette victoire, cette première victoire en World Tour, c'est absolument, absolument génial. Et puis effectivement, hein, nos autres Français ont brillé. Effectivement, l'autre vainqueur, voilà, je l'avais plus tout de suite en tête, j'ai eu un petit trou, mais effectivement Romain Grégoire qui sera normalement, je crois, au départ de l'Amstel, hein, dimanche.
Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Oui, il me semble bien, oui.
Et puis Juan Ayuso, hein, qui s'impose et qui prouve bien que c'est Juan Ayuso, tout simplement.
Ouais, c'est vrai, belle performance de nos Français, franchement ça fait plaisir à voir, et ça donne un petit peu d'espoir pour la suite.
Ouais, bien sûr. Tout à fait.
Tu me tends une belle perche, l'Amstel, et puis les courses à venir, les Ardennaises, on referme ce magnifique mois de Flandrienne, hein, avec ce double week-end magique entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. C'est le début des Ardennaises avec l'Amstel Gold Race, tenant du titre Tadej Pogacar, qui avait remporté l'année dernière la course, qui ne sera pas au départ, il me semble, cette année. Il y aura Royan Ayuso côté UAE, Joe Almeida, mon cher Joao, qui sera au départ, Brandon McNulty, Mark Hirschi au départ. Côté favori, donc Mathieu Van Der Poel qui est là, qui va peut-être réaliser un incroyable triplé en remportant l'Amstel Gold Race, lui qui en sera seulement à son sixième jour de course. On peut noter la présence de Michael Woods, Maxime Van Gils qui sera présent aussi côté l'autodestiné, ou Warren Barguil qui sera présent, Valentin Madouas, Romain Grégoire qui sera présent.
Quentin Pachon. Je trouve que nos Français ont une belle carte à jouer.
Ouais, moi je pense que Valentin Madouas peut avoir sa place. Matej Mohoric devrait être présent aussi. Ouais. Richard Carapaz, Ben Healy, on a hâte de le revoir pour confirmer. Ben Healy, il y aura Axel Laurence qui sera présent aussi aux côtés de Mathieu Van Der Poel. Benoît Cosnefroy qui a failli remporter cette course au bout d'un dénouement mythique face à Tom Pidcock. Je ne suis pas sûr si Julien Alaphilippe sera présent sur l'Amstel.
Alors, je peux pas te dire non plus.
Eh ben écoute, on va mener notre petite enquête, mais il y a l'air d'avoir un petit
l'équipe Bahreïn, effectivement, tu as parlé de Matej Moric, Jack Haig sera normalement là.
Qui lui convient bien, Matej Moric en plus.
Ouais, je trouve un peu moins quand même l'Amstel que l'autre course, mais après voilà, il y a des coureurs aussi, c'est Bahreïn Victorious, qui peuvent avoir leur mot à dire aussi dans l'organisation autour de la course. Mais je pense que Mathieu Van Der Poel a évidemment une grande carte à jouer, même si ça sera peut-être un petit peu moins facile entre guillemets de s'imposer pour lui sur ce type de course là. Enfin bon, il sait tout faire, hein. Mais après, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire.
Et puis la semaine suivante, alors
Michael Matthews. Je voulais parler de Michael Matthews.
Qui sera
normalement là et qui.
Dans quelle forme
il va arriver, ça c'est la question, mais effectivement, voilà, il y a de. Ça va être sympa, c'est le début de César Bénèze.
Ouais, exactement. Et puis alors sur le tour de Liège-Bastogne-Liège, donc Remco Evenepoel qui était censé être présent, alors je pense que ça va pas être possible. Même chose, il était censé y avoir Primoz Roglic sur Liège. Alors il y aura Joe Almeida qui sera présent, Michel Katowski, Tom Pidcock, Richard Carapaz, Ben Hilly, Tao Gegenhardt qui sera présent, Mathias Kelmoje, Warren Barguil qui sera là aussi, Mathieu Burgodo, Alexis Villermoz, Magnus Kortnissen, Tobias Johannessen qui sera là, Andreas Sund, Matej Mohoric qui devrait être présent également aussi. Félix Gall aussi qui sera là, Quinton Hermans aussi qui avait fini deuxième, Mathieu Van Der Poel qui sera bel et bien présent.
Ça serait fou. Alors je vois là sur la publication Twitter de départ fictif, hein, les amis de départ fictif qu'on salue bien évidemment, que la présence de, ils mettent un petit guillemet, la présence de Mathieu Van Der Poel serait à confirmer, mais je sais pas si tu as plus d'infos, mon cher Elio.
Sur la
présence certaine de Mathieu Van Der Poel, est-ce que c'est sûr ou...
Alors, il a émis un petit doute.
Ouais.
Il a émis un petit doute. Donc, il sera de sûr présent sur l'Amstel, mais Liège a l'air quand même d'être dans ses cordes. Liège a l'air d'être présent. Liège a l'air d'être dans ses objectifs.
JCRM qui pose la question de.
Est-ce que Bernal sera présent? Oui.
Ouais.
Alors attends, je vais te.
Tu parles de l'Amstel, mon cher JCRM.
Je pense qu'il doit parler de l'Amstel. Je vais te répondre tout de suite, hein, mon cher JCRM. Mais en tout cas, pour te répondre sur Mathieu Van Der Poel, il a l'air d'avoir annoncé qu'il serait présent. Alors Bernal, c'est pas du tout confirmé. J'ai juste la présence de Tom Pidcock et de Kwiatkowski qui est confirmé sur Ineos. On te retiendra. Ouais. Il revient sur. D'accord. Bah écoute, on te croit au JCRM, donc il nous dit oui, l'Amstel, il revient bien cette saison. Bernal, oui. D'accord.
Ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est hyper intéressant ce que dit. Au JCRM par rapport au petit Colombien, je ne sais plus sur quelle course, mais Egan était dans une très belle forme.
Oui, il me semble que c'était sur le.
Je crois que c'était sur le Tour de Catalogne.
Voilà, sur le Tour de Catalogne, exactement. Oui, donc à confirmer, on a hâte de le revoir, le petit Colombien, exactement. Moi, je disais, est-ce qu'il vient sur la neige? Je le trouve cette saison. C'est ce que je voulais dire. Bah, c'est pas sûr. Sur l'Amstel, je suis pas sûr. On te retiendra au courant, mais je pense, j'ai pas de confirmation au JCRM sur sa présence. Mais oui, il revient très bien, comme il l'a dit Mon cher Julio, c'est que il est en forme, il est en forme sur le, il a fait une bonne performance sur le tour de Catalogne. Regarde.
Et on est content, très content pour lui.
Oui, mais c'est vrai, on est content de le revoir, notre cher Egan qui avait privé Julien Alaphilippe du Tour de France. Aïe, aïe, aïe. Souvenir douloureux. Bref. Bon, et ben, je pense qu'on aura, on aura fait le tour un petit peu de toute l'actualité vélo. Roulieu, peut-être un petit pronostic pour l'Amstel Gold Race. Moi le cœur parlerait et je mettrais bien Joe Almeida, mais c'est impossible.
Tout est possible, c'est le choix.
Ah, puis à noter, attends, j'ai oublié, bien sûr, côté Bora aussi sur l'Amstel, Maximilien Schwarmann et puis Sergio Higuita qui sont présents.
Oui, absolument, qui peuvent avoir leur carte à jouer sur davantage sur les Ardennaises. Oui. Romain Grégoire pour JCRM.
Romain Grégoire.
Un petit cœur pour JCRM. On lui souhaite tout le bonheur, bien évidemment, à Romain. Ça va être extrêmement difficile. Bah,
Le temps que tu réfléchis, mon Julio, je pense qu'il y aura, il y aura pas de surprise, hein, je pense, sur cet Amstel, et Mathieu Van Der Poel remportera la course. Mais par contre, je mettrais bien un Groupama sur le podium, hein, parce qu'il y a, il y a quand même des bons éléments. Il y a Madouas qui est présent, Grégoire, et puis aussi Quentin Paché qui est là. Donc, et puis Stéphane Coulve aussi qui tient pas si mal que ça. Donc, je mettrais bien un Groupama sur le podium. Et bien sûr, Van Der Poel gagne. Bon, Julio ? Jules ?
J'ai envie de dire, pour changer, hein. Je pense qu'effectivement Mathieu Van Der Poel, mais peut-être
Joe Almeida,
peut-être ça serait naturel. allez, pourquoi pas, non mais c'est, voilà, on y croit, mais en tout cas voilà, peut-être, on n'est pas évidemment à l'abri que Mathieu Van Der Poel ait une petite surtout voilà, c'est vraiment Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les Flandriennes, ça lui correspond vraiment parfaitement. Aussi les Ardennaises, il est capable, évidemment, hein, voilà. C'est pas du tout pour remettre en cause ça, mais voilà, il peut avoir aussi un petit coup de moins bien, une décompression naturelle, voilà. Donc, j'ai envie de dire Tom Pidcock.
Ouais, aussi, je le mets dans mes favoris, il est en forme, Pidcock.
Pourquoi pas, si un autre coureur doit sortir du lot, voilà, je crois qu'il avait un petit souci, il avait des petits soucis, il était revenu pour Paris-Roubaix. Donc voilà, s'il est pleinement rétabli, pourquoi pas.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec. Bon, cette fois-ci on aura fait définitivement le tour. Merci beaucoup mon cher Julio d'avoir pu être présent autour du barbecue.
Et ben, c'était un réel plaisir de partager ça encore ensemble et avec toi, évidemment, mon Elio, et également avec JCRM qui a participé activement au live et qu'on remercie énormément.
On te salue, on te salue vivement, mon cher JCRM, d'avoir participé au live. Hein, comme d'habitude, t'es présent partout sur Barbecue Foot, sur Barbecue Vélo.
Ah ouais, il est là aussi sur Barbecue Foot,
JCRM. Ah oui, c'est un actif de Barbecue Foot, hein, JCRM. Il est souvent présent aux côtés d'Arnaud, d'ailleurs, qu'on salue, hein, notre cher Arnaud,
inoxydable, notre il touche à tout, quoi. Il est extraordinaire. Oui. Hein.
Et puis on salue bien sûr, hein, toute l'équipe de Radio Mergazenco. On salue toute l'administration. Bien sûr, hein, on est une équipe. Hein, on est une équipe. Hein,
Hugues, ça, j'ai CRM avait... juste qui écrit une dernière remarque concernant Mathieu Van Der Poel.
Je l'avais noté. Oui.
Ouais. Effectivement, hein, je trouve qu'il a raison, notre ami JCRM. Je lis son. Mais en fait, non, je suis bête. Je passe mon temps à lire ce qu'il dit. Et en fait, les, nos amis qui nous regardent et nous écoutent, on les salue. En fait, ils voient ça en direct. Donc,
bien sûr, mais après, ça n'empêche pas de le lire, hein, bien sûr.
Oh, ouais, bien sûr. Mais voilà, ouais. Qui nous parle, bah ouais, bien sûr, de
dopage, oui.
Des remarques qui sont toujours présentes. Voilà, tant qu'on ne sait pas, on peut rien dire.
Exactement. Ah, oui, c'est clair. Voilà. Donc oui, bah, on va vous remercier tous avant de quitter ce live. Hein. Merci à ceux qui étaient présents sur Twitter. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être écoutés. Ceux qui étaient présents sur YouTube, sur Twitch, bien évidemment, au JCRM. Merci à ceux qui ont écouté le podcast. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, ce petit format du dimanche, débrief à chaud des lives, hein, parce que on trouve ça assez intéressant. C'est plus facile pour tout le monde. Comme ça, ça dégage un petit peu la soirée, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si même à deux, comme ça, ça vaut combien, si vous appréciez le concept.
Si on vous a pas trop saoulé, hein, que ce soit les deux mêmes guignols qui parlent pendant une heure bientôt 22.
ouais, mais non, mais on te remercie encore une fois vivement, mon Rulio, d'avoir été présent ce soir, et puis... Bah, voilà, on va saluer également tous les membres de l'équipe de Barbecue Vélo. Hein.
L'administration.
Il y avait Tom et puis Laurent Brooks qui étaient présents sur les secteurs pavés. Hein, donc,
ils étaient au secteur numéro 24.
24, ouais, je vais te redire ça tout de suite. Mais en tout cas, merci à eux de nous avoir fait part de leur expérience sur cette course
24, absolument
sur cette course. En tout cas, merci à eux d'avoir fait le petit coucou, et puis merci encore à vous, hein, de nous avoir écouté en podcast, hein, c'est toujours un plaisir. C'était Rulio Feno pour m'accompagner, puis Julien Lafilippe pour vous servir lors de ce magnifique barbecue. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, on se retrouve très bientôt, je pense, pour le débrief de l'Amstel Gold Race. C'était nous, hein. Merci. Ciao, ciao.
Salut à toutes et à tous.